CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast de la planète entière, à savoir Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de l'auteur de la série de livres Entrepreneur de légende, à savoir l'économiste Sylvain Mercinger. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
L'histoire du jour aujourd'hui, Sylvain, est une histoire un peu particulière parce que le fondateur de Zara, à savoir Amancio Ortega Gaona, j'espère qu'il ne me jugera pas, est parti de rien pour créer cet empire du fashion, mais surtout, il a été aidé de sa première femme, et ça, c'est très souvent méconnu. On va rectifier tout ça aujourd'hui dans cet épisode.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Amancio est né en 1936 à Buzdongo, des Herbas.
Oui, il est né dans une petite ville du nord-ouest de l'Espagne, donc pas très loin de la Corogne où il va aller travailler et où d'ailleurs son entreprise a toujours son siège. Donc 1936, tu l'as dit, hein, c'est une année un peu noire pour l'Espagne parce que c'est le début de la guerre civile. Il naît dans une famille modeste, son père est cheminot, c'est une famille d'ouvriers très modeste, une enfance, on va dire assez terne, dans une famille à la fois modeste et dans une période de guerre. Il fait très peu d'études.
Il quitte l'école à 13 ans.
Voilà, il quitte l'école à 13 ans, ce qui, à l'époque, l'Espagne, dans les années, à peu près les années 40, hein, quand il va à l'école, c'est un pays pauvre, en période de guerre mondiale. Donc voilà, il faut aller travailler assez vite pour ramener un petit salaire à la maison. Donc dès 13 ans, il part travailler donc à La Corogne, qui est un peu la grande ville de la région. Et il trouve à s'embaucher dans une entreprise de vêtements, notamment de chemises, qui s'appelle La Mara, si je prononce bien. Et il commence vraiment en bas de l'échelle. Hein. C'est le garçon à tout faire, qui passe un coup de balai, qui livre les produits, qui fait vraiment tout ce qu'il faut faire. Et petit à petit, il apprend un petit peu le métier. Donc il touche vraiment à toutes les ficelles du métier.
Il va tout voir, quoi.
Voilà, il va tout voir. Donc c'est à la fois une boutique et il y a un atelier de couture, hein, de production. Donc il va vraiment voir toute la chaîne du vêtement, de la conception, du dessin des vêtements à la production, la couture, puis la vente. Et ça, c'est vraiment très important parce que en fait, il a toujours baigné dans ce milieu du vêtement et vu qu'il est en fait, c'est un peu le garçon à tout faire, du coup, il touche un petit peu à toutes les phases de la production du vêtement et de la vente. Et petit à petit, il monte un petit peu en grade.
Oui, c'est ça. Avec sa solide expérience, il arrive à gravir les échelons.
Oui, donc il est débrouillard, loin d'être bête. Et donc, il devient un petit peu, aujourd'hui on dirait manager, quoi. Il monte un petit peu en grade et il dirige un petit peu des équipes. Une partie de ses frères et sœurs, d'ailleurs, certains travaillent avec lui. Et notamment Rosalía Mera, qui deviendra son épouse et la cofondatrice de Zara.
Et il faut savoir qu'au fond de lui, il a quand même envie, une ambition, c'est de monter sa boîte.
Oui, donc il commence à bien connaître le métier, et, il a des idées et il se dit, ben voilà, pourquoi pas me lancer. Et donc en 1963, donc avec notamment sa femme, mais aussi ses frères qui seront à un moment, au moment du lancement, ce sera une entreprise assez familiale, ils fondent une entreprise qui s'appelle Confecciones Goa, donc c'est ses initiales à l'envers en fait, et qui fait des peignoirs et des robes de chambre.
Ah oui, donc c'est dans la conception d'habits, mais...
Voilà, donc en fait c'est pour une raison très simple, c'est qu'il avait identifié que c'était le marché le plus porteur. Donc c'est pas du tout qu'il a une affection particulière pour les peignoirs et les robes de chambre, mais vu qu'il connaissait bien le marché, il s'est dit c'est là où il y a un marché à prendre potentiel. Donc avec une stratégie qui est un petit peu celle de Zara, qui est un petit peu on va dire le haut de gamme abordable, c'est-à-dire essayer de se donner une image un petit peu haut de gamme tout en restant sur des prix plutôt de classe moyenne.
Il faut savoir que la conception, à l'époque, ça se fait dans la cuisine du couple. C'est l'atelier, il est là-dedans.
Oui, quoi. Voilà. Donc l'entreprise commence de manière très modeste. Effectivement, la couture des premiers vêtements, c'est dans la cuisine de l'appartement familial. Hein,
donc, c'est un peu le garage de la Silicon Valley.
C'est voilà, c'est un petit peu. Il y a le garage de Hewlett-Packard ou de Steve Jobs. Et ben là, c'est la cuisine des Gaona à La Corogne. C'est un petit peu la même chose. Et évidemment, assez vite, bon, l'entreprise voilà prend un petit peu. Ça devient une petite PME et déménage dans des ateliers un peu plus conséquents.
Il grossit un peu, il faut dire que l'entreprise se porte bien, mais il a d'autres ambitions.
Voilà, il a d'autres ambitions. Et donc là, parce que pour l'instant, ils sont fabricants donc de vêtements, mais ils les vendent à d'autres magasins, d'autres chaînes de distribution. Et donc, il se dit, ben, pourquoi pas avoir ma propre boutique.
Mais c'est pas si simple.
C'est pas si simple. Il fait une première tentative en 71. Il ouvre une boutique qui nomme Sprint, donc avec un nom qui se veut un petit peu à l'américaine, un petit peu nouveau, et c'est un échec. C'est un échec probablement parce que c'est trop tôt. Donc 71, il faut se remettre dans le contexte espagnol, hein, c'est encore la dictature de Franco. Il faut voir qu'à cette époque, donc l'Espagne n'a pas encore connu son boom économique, hein, qui interviendra dans les années 80-90, et il y avait des règles sociales très strictes, notamment des lois sur les habits qu'on pouvait porter, hein, on ne pouvait pas s'habiller n'importe comment, mini-jupe, etc. C'était encore une société très, très machiste, très patriarcale, donc les femmes travaillent peu, ont peu d'argent à dépenser.
Ah oui, donc,
C'est quand même souvent les femmes qui aiment bien faire du shopping. Hein. Et donc, ça échoue probablement parce qu'il est trop en avance.
Mais tout changea avec le décès de Franco.
Voilà, donc quand Franco décède, donc en 75, avec le basculement vers la démocratie, là, il se rend compte qu'il y a un coup à jouer et que c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et donc en 75, il ouvre son magasin Zara, son premier magasin Zara à la Corogne, donc, qui devait s'appeler Zobra. En référence Zobra. Au film Zobra le Grec, c'est un film qu'il aimait bien.
Que je connais pas.
Je connaissais pas non plus avant de travailler sur Zara, mais voilà, c'était son film un peu.
Ah, t'imagines, ça serait appelé Zobra?
Ben sinon, ça se serait appelé Zobra. Mais il se trouvait qu'il y avait un bar du quartier qui s'appelait déjà Zobra.
Ah ben, ça devait être vraiment populaire comme film.
Voilà. Alors peut-être que le bar, c'était pas en lien avec le film, je sais pas. Donc du coup, voilà, il avait déjà prévu sa devanture Zobra, etc.
Ah oui.
Et il se dit, ben non, je peux pas parce qu'il y a le bar à côté qui va me dire que j'ai copié son nom, etc. Et donc, il faut qu'il change. Mais il a déjà fait imprimer ses lettres pour sa devanture, etc. Donc il change en Zara.
C'est trop malin.
Il change un petit peu le moins possible. Et donc, ça devient Zara.
Le choix du nom...
Improbable.
Le plus improbable de l'histoire. Et là, il est toujours, évidemment, il faut le dire, avec Rosalia Mara, sa femme.
Oui, il est toujours avec sa femme qui commence à se désengager de l'entreprise. Donc, c'est vrai que Amancio Ortega, c'est un peu devenu c'est la figure emblématique quand on pense à Zara, mais sa femme Rosalia Mara a eu une importance déterminante au lancement. C'est notamment elle qui, quand ils cousaient leur pyjama et leur serviette de bain, leur peignoir et autres, après ils ont embauché quelques couturières, puis ça a grandi. C'est elle qui gérait tout l'aspect production. Et Amancio Ortega, lui, c'était plus le commercial qui était au volant de sa vieille voiture pour aller démarcher les clients. Donc elle a géré les ateliers pendant très longtemps. Et puis après, ils ont eu donc deux enfants, notamment un enfant handicapé. Et donc, puisqu'il fallait s'occuper de ce fils handicapé, c'est elle qui s'en est plus chargée. Et donc, qui s'est en fait à peu près à ce moment-là, hein, grosso modo, début des années 70, qui s'est un peu retirée de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'après, le grand succès de Zara, ce sera avec Amancio Ortega exclusivement aux manettes.
Et c'est pour ça que son nom est beaucoup moins connu que le nom de son mari.
Voilà, son nom est beaucoup moins connu que le nom de son mari. Il faut quand même voir que c'est une personne qui vient, comme son mari, d'un milieu très modeste, d'un milieu ouvrier de la Corogne, et qui est devenue la femme la plus riche d'Espagne à sa mort. Elle est morte en 2013. Elle avait une fortune de plus de 5 milliards et c'était la femme la plus riche d'Espagne devant la reine. Et c'était l'entrepreneuse la plus riche du monde. Parce qu'il y avait des femmes plus riches qu'elle, comme les Bettencourt, mais c'était des héritières. Et c'était l'entrepreneuse, la co-entrepreneuse en l'occurrence, la plus riche du monde, donc, qui a eu un parcours quand même assez, assez extraordinaire.
Donc tu l'as dit, ouverture du premier magasin Zara donc à la Corogne, et évidemment, le succès est immédiat et foudroyant.
Voilà, là pour le coup, c'est un succès très rapide, puisque ils sont donc au bon moment, hein, l'Espagne bascule vers la démocratie, il y a une vraie envie chez les Espagnols d'avoir des habits un peu plus modernes, toutes les lois sur les tenues vestimentaires sont abrogées, et donc Zara développe son modèle qui a fait sa réussite, qu'on appelle le fast fashion, donc de mode rapide, un petit peu par analogie à la fast food, qui va très bien marcher. Donc ce modèle, en fait, il prend un petit peu à contre-pied les habitudes du secteur.
Oui, c'est une nouvelle façon de faire le métier, quoi.
C'est une nouvelle façon de faire le métier. Donc il faut bien voir que Amancio, on l'a dit, hein, depuis 13 ans, depuis qu'il a 13 ans, il travaille dans cet environnement-là, il connaît toutes les ficelles, et il se dit plusieurs choses. Il se dit, la façon de faire traditionnelle, c'est je fais, mettons, une chemise, j'en fais plein, je fais un gros stock, j'amène mon stock, je l'écoule, je brade un petit peu les prix au besoin pour l'écouler, et après je fais un deuxième modèle de chemise, etc. Lui, il bouscule tout ça, il se dit non, moi je vais faire peu de chemises, et je vais les vendre sans faire de rabais. Parce que si les gens commencent à se dire bah, de toute façon, il va faire des rabais pour écouler son stock, et bah, ils attendent les rabais pour acheter. Donc c'est un premier argument, c'est-à-dire qu'il produit moins, mais comme ça, il écoule tout sans avoir à faire de rabais. Et un autre aspect très important, c'est que du coup, il renouvelle plus ses gammes de vêtements, et donc les clients ou les clientes viennent plus souvent dans les magasins Zara parce qu'elle se dit bah, je vais voir la nouvelle collection. Il y a un côté nouveauté. On a envie de retourner voir quel est le nouveau produit. Et un autre avantage de faire comme ça, c'est qu'il y a un côté plus exclusif.
Bien sûr.
Si vous faites un produit de très grande quantité. Par exemple, il y a un sac. Moi, j'ai un sac. Dans le métro, tout le monde a le même modèle. Mais en France et à l'étranger. C'est un sac qui a dû être fait dans des proportions absolument gigantesques en Chine ou je ne sais où. Bon, je m'en fiche complètement dans le même sac que tout le monde, mais le fait d'avoir comme ça ce modèle de la fast fashion, ça permet d'avoir des habits, on va dire, plus exclusifs et de donner un peu une petite image de... presque de haute couture. C'est un peu l'idée
de Zara. Oui, c'est un peu l'image de haute couture. C'est les pièces un peu uniques.
Voilà, c'est au lieu d'avoir un produit très standardisé, à prix cassé. Alors là, le prix reste relativement bas, mais il y a un effort de renouvellement, un effort d'originalité fait sur le vêtement, qui fait qu'on a on a l'impression d'avoir un vêtement plus haut de gamme en fait que son niveau de prix.
Et comme on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, eh bien on se dépêche d'essayer voilà. d'avoir en premier.
Voilà, si on sait que la stratégie du magasin, c'est d'avoir des stocks gigantesques, on sait que dans 3 mois, il y aura encore le vêtement. Donc, on attend, comme je dis, on attend les soldes. Mais là, on sait qu'il y a des collections récurrentes. Donc, on a envie d'y aller pour voir la nouvelle collection. Et on a envie d'acheter si le vêtement nous plaît, parce qu'on sait que dans quelques semaines ou quelques mois, il risque de plus être là. Donc il y a vraiment plein d'avantages à organiser en fait, le métier de cette façon-là.
Mais du coup, il faut être rapide.
Alors du coup, faut être rapide. Faut avoir une logistique implacable. Faut avoir des créateurs qui sortent beaucoup de vêtements. Faut avoir une capacité à les faire fabriquer rapidement. Et il faut avoir une logistique absolument bien huilée pour que, parce que évidemment, au début, ils fabriquaient en Espagne, mais assez rapidement, la production a été délocalisée, notamment en Chine et en Asie. Donc, il faut avoir une logistique extrêmement bien huilée. C'est vraiment le point clé, en fait, de ce qu'on appelle la fast fashion.
Là, on commence à voir que Amancio, il a une vraie vision du métier. Mais en plus, il a aussi une vision très précise de la communication, de comment il faut communiquer.
Oui, alors, c'est vrai que Zara fait très peu de publicité, donc, que ce soit à la télévision, sur des pancartes ou autre. Il mise plutôt sur le bouche à oreille et sur des emplacements. Dire que souvent, il met très cher sur des très bons emplacements, dans les beaux quartiers, assez proches de boutiques de luxe. Donc, disons que géographiquement, il essaie de s'implanter près des boutiques d'un niveau de gamme supérieur pour essayer de donner à ses magasins, à ses produits, une image supérieure à ce qu'on pourrait croire que c'est vu le niveau de prix. Donc c'est toujours un petit peu l'idée d'avoir des produits abordables pour le grand public, tout en ayant une image haut de gamme, presque un petit peu luxe.
Donc l'emplacement est la priorité, la publicité c'est pas trop important, et ce qui est important aussi pour lui, c'est le développement, mais même par le biais d'autres marques.
Oui, donc on connaît Zara qui est la marque emblématique, mais en fait Zara est regroupée sous une holding qui s'appelle Inditex, donc Industria des Diseños Textiles, j'espère que je le prononce bien, et donc fondée en 85, et il y a eu d'autres marques qui ont été soit développées directement, soit rachetées, donc Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home après avec tout ce
oui,
qui est...
Oui, c'est vraiment des marques qu'on voit dans les centres commerciaux, dans les...
Voilà, donc en fait, c'est vrai que quand on pense à Amancio Ortega, on a toujours l'image de Zara, mais en fait, c'est un groupe plus large de vêtements avec des gammes un petit peu différentes. Certains sont un peu plus haut de gamme. Bon, bah, Zara Home, c'est plutôt pour tout ce qui va être mobilier, les coussins, etc. Donc, ce qui lui permet d'avoir en fait une palette... qui lui permet de toucher un éventail de consommateurs beaucoup plus large.
Il a eu une vraie stratégie de diversification qu'on ne voit pas obligatoirement dans le monde du fashion.
Oui, bah en fait, il a des idées à la fois nouvelles sur la façon de procéder, sur la façon de vendre, sur la façon de gérer son groupe, puisque une des grandes difficultés, c'est la logistique. Avec un groupe plus grand, comme ça, il peut... disons que ces chaînes logistiques peuvent lui servir pour plusieurs marques à la fois, donc ça lui fait des économies d'échelle. Et donc, c'est Il a complètement bouleversé la façon de faire le marché du vêtement, du début à la fin, en fait, que ce soit la manière de le vendre, la manière de le présenter, la manière de s'approvisionner. Il a complètement dépoussiéré le marché.
2001, entrée en bourse pour Zara.
Voilà, entrée en bourse pour lever des capitaux, continuer le développement. Évidemment, le titre a grimpé. Amancio Ortega a même été un moment en 2015 première fortune mondiale. Aujourd'hui, j'ai vérifié sur Forbes, il a plus que 67 milliards de dollars.
Bon, le pauvre.
Le pauvre, hein, mais bon, ça reste quand même une des plus grosses fortunes mondiales.
C'est l'homme le plus riche d'Espagne.
C'est l'homme le plus riche d'Espagne, oui, et il reste toujours à peu près dans le top 10 des plus grosses fortunes mondiales.
Mais il faut dire que même s'il est riche comme ça, il n'a pas changé.
Oui, c'est resté quelqu'un d'assez discret, on le connaît assez peu en fait, il parle peu dans les médias, assez simple, alors il a une belle villa, un yacht, etc., comme tous les riches, mais c'est pas du tout le côté bling-bling à se mettre en avant dans les magazines People, à étaler sa richesse, etc., c'est resté quelqu'un d'assez simple, avec un management assez proche en fait, il n'a pas vraiment de bureau, préfère discuter avec les salariés plutôt que de faire des réunions très formelles, un management assez intuitif en fait.
Il mange à la cantine.
Il mange à la cantine, voilà, c'est pas le genre des grandes réunions très guindées, des rassemblements un peu stricts, c'est plus un feeling qu'il crée avec ses équipes et un management assez informel en fait.
Est-ce qu'il fait des dons avec toute sa richesse ?
Il en fait un petit peu. Alors, il est assez discret, donc encore une fois, on ne sait pas forcément précisément les montants donnés, mais oui, il y a des œuvres de charité dans l'éducation notamment, mais on voilà, on ne connaît pas exactement les montants, mais il a eu comme beaucoup de milliardaires, on va dire ses bonnes œuvres, et sa femme aussi, qui était une personnalité, elle, militante de gauche, hein, clairement, qui, elle, a été, on va dire, plus impliquée sur les questions sociétales et sociales.
Elle a été dans les Indignés ?
Oui, dans le mouvement des Indignés, c'était une supportrice du mouvement, mais globalement, depuis toujours, elle a une âme un peu à gauche de militante, et ça lui est resté jusqu'à sa mort.
On peut dire donc, Sylvain, que Zara n'a pas été construit sur une ambition débordante de ses fondateurs, mais bien sur une connaissance du métier et des besoins. Il faut savoir qu'on peut dire que Amancio Ortega donc n'était pas un requin, mais c'était plutôt un visionnaire. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée donc de deux tomes de ta série de livres. On peut retrouver l'histoire de Zara en général donc dans Les Entrepreneurs de Légende, le tout premier volume qui était sorti aux éditions Hendrik B. Et l'histoire plus précise donc de la participation à la construction de Zara de Rosalia Mera, c'est dans le tout dernier volume des Entrepreneurs de Légende qui est sorti, c'est à savoir Les Entrepreneuses de Légende qu'on peut retrouver encore en kiosque. Toujours, c'est les éditions Hendrik B. Merci beaucoup Sylvain. Vous tous, vous pouvez nous réécouter évidemment sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. Vous pouvez nous partager, vous pouvez nous mettre des pouces, nous dire que vous aimez par le biais des réseaux ou par le biais des plateformes d'écoute. Cela nous fera plaisir. On vous dit à très bientôt.
CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.